RCF.
Albatros est un groupe de formation et de recherche en soins palliatifs qui a été créé en 1988 à Lyon par le père René-Claude Beau au moment d'une prise de conscience de la souffrance et de la solitude des personnes en fin de vie et de leurs proches. Yves Duplessis, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous faites partie de cette association Albatros depuis près de 10 ans. L'occasion de rappeler l'origine d'Albatros.
Albatros donc a été créé par René-Claude Beau il y a maintenant 30 ans, à l'époque où le soin palliatif était encore balbutiant en France, mais par contre développé dans les pays anglo-saxons, en Angleterre et au Canada. Et René-Claude Beau s'est beaucoup inspiré de ce qui se faisait au Canada. Il est allé voir sur place à Trois-Rivières auprès d'une association qui s'appelait justement Albatros, d'où l'origine de notre nom.
Alors on peut rappeler ce qu'est la démarche palliative, même si elle commence à être plus connue aujourd'hui?
Absolument. Alors, la démarche palliative, c'est l'approche globale de la personne. C'est prendre en considération une personne dans sa totalité. Alors, bien sûr, dans ses composantes physiques, dans son problème physique, mais aussi dans sa dimension sociale, psychologique et spirituelle.
Oui, concrètement, vous accompagnez des personnes en fin de vie et leurs proches en allant à l'hôpital ou chez les personnes?
Eh bien, en allant d'une part à l'hôpital, mais aussi chez les personnes. Donc, nous accompagnons dans des lieux comme des unités de soins palliatifs, dédiées aux soins palliatifs, dans les services hospitaliers où il y a des lits dédiés soins palliatifs, en EHPAD et à domicile.
Alors, vous, Yves Duplessis, vous avez travaillé chez un constructeur automobile pendant une bonne partie de votre vie comme cadre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette démarche de bénévolat, hein, puisqu'on est bénévole à Albatros?
Oui. Ce que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup été influencé, mais il y a de nombreuses années, bien avant que je commence ma formation à Albatros, par des livres comme ceux de Kubler-Ross, Marie de Henzel notamment, qui a beaucoup parlé de justement des unités de soins palliatifs et de l'accompagnement en fin de vie. Et donc ça avait un écho en moi, toute cette approche.
Sans trop savoir pourquoi finalement.
Non, parce que souvent on se dit, mais est-ce que c'est un deuil dans la famille? Est-ce qu'il y a eu un événement qui...
Déclencheur.
Quand je regarde au fond de moi-même, je ne vois pas vraiment d'élément déclencheur, si ce n'est un désir d'accompagnement des personnes dans cette partie de leur vie, sans doute peut-être pour approcher un petit peu le mystère de la vie qui est là présent plus particulièrement dans ce moment-là.
Oui, un moment marquant à nous partager, Yves?
Oui, le moment marquant que je pourrais citer, c'est celui où... c'est la seule fois où j'ai assisté au dernier souffle d'une personne en fin de vie. C'était à l'unité de soins palliatifs des Charmettes. J'avais terminé mon accompagnement vers les 2h de l'après-midi quand un des soignants, au moment où je partais, me dit « Yves, est-ce que tu peux rester un moment de plus parce que voilà, c'est le moment de la relève ?» Et il y aura beaucoup moins de monde donc dans le service auprès des patients. Et il y a une patiente qui n'est pas bien, qui est visiblement vraiment en fin de vie. Est-ce que tu peux rester auprès d'elle pendant que nous sommes en relève?
Donc, vous avez accepté?
C'est ce que bien sûr, j'ai accepté. Donc, j'ai redéposé mes affaires dans le bureau des bénévoles et je suis donc allé dans cette chambre. Donc, quand je suis rentré dans cette chambre... donc la personne qui était dans son lit avait les yeux fermés, n'était pas en état de parler. Donc je me suis présenté, je lui ai dit pourquoi je venais. Je me suis assis auprès d'elle et je me suis mis en présence silencieuse auprès de cette personne qui respirait faiblement, qui avait l'air sereine, calme. Donc je ne sais pas si ma présence a été pour elle l'occasion de partir, mais au bout de 10 minutes, je me suis rendu compte que elle ne respirait plus, elle avait arrêté de respirer. Elle est partie un peu comme le papillon quitte sa fleur.
Comme une bougie qui s'éteint.
Comme une bougie qui s'éteint. Mais en toute sérénité, en légèreté, je dirais. Et pour moi, c'était apaisant. Et je dirais avec une certaine joie, c'est-à-dire dans la mesure où... oui.
Cette mort avait été paisible.
Cette mort avait été paisible et que ça n'avait pas du tout provoqué en moi quelque chose de morbide, de difficile. Mais non, c'était comme une continuité, si on peut dire, de la vie autrement. Et ça m'a beaucoup marqué parce que j'entends souvent dire autour de moi, quand je dis un petit peu ce que je fais, « Ah, mais qu'est-ce que vous êtes courageux, mais qu'est-ce que ça doit être difficile, qu'est-ce que c'est morbide ?» Non, pas du tout. Voilà l'exemple.
L'apprentissage de la vie autrement.
C'est l'apprentissage de la vie autrement.
L'association Albatros forme des bénévoles pour l'accompagnement des personnes gravement malades et en fin de vie. Marie-Annick Fournier, vous en faites partie depuis près de 20 ans.
Et oui.
Une vraie expérience. Oui, c'est, non, je c'est pas ce que je pensais. Et vous avez travaillé, comme commercial dans les composants électroniques. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans cette aventure?
Et je dirais que la vie fait que m'a amenée sur ce chemin parce que j'ai rencontré la maladie pendant très longtemps. Je n'ai pas pu avoir d'enfant, donc ça a été une douleur profonde et qui le reste toujours. Et que, au travers de ce chemin, j'ai fait plein de rencontres. Et ces rencontres, comme beaucoup d'entre nous, on vient jamais là par hasard. Et il y a toujours des mains qui se tendent. Et ces mains, elles m'ont accompagnée pendant certains moments difficiles. Et du coup, je m'étais toujours dit qu'un jour ou l'autre, ce serait peut-être bien de rendre l'appareil.
Et vous avez commencé cette expérience d'Albatros tout en travaillant ou vous avez attendu la retraite?
Tout en travaillant. Donc, c'est aussi la difficulté, ça c'est un autre paramètre, la difficulté d'être bénévole quand on travaille. J'avoue que je remercie mon mari parce que pendant 10 ans, je l'ai fait tout en travaillant et je le faisais le week-end. Donc c'était un peu la course. Quelque part, je lui dis, tu fais pas d'accompagnement, mais tu en fais. Parce qu'il m'accompagnait et c'est vrai que se sentir être bénévole quand on travaille, il faut être soutenu aussi par ses proches. C'est important, autrement on n'y arrive pas, on ne peut pas continuer.
Oui, alors vu de l'extérieur, on peut trouver cela rébarbatif d'accompagner des personnes en fin de vie avec la souffrance quelquefois qui est présente de la personne et aussi de ses proches. Qu'est-ce qui vous a attiré?
C'est pas, moi je ressors toujours, c'est toujours difficile pareil à expliquer dans le sens où on a l'impression que on donne plein de choses, mais on donne mais on reçoit beaucoup plus que ce qu'on donne. Et moi je fais beaucoup de choses en yoga, plein de choses de ce style. Il y a que quand je fais de l'accompagnement où il n'y a plus rien qui existe. Et quand je ressors, je suis fatiguée, mais en même temps rechargée d'une quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Et c'est en même temps, c'est un mélange de pleurs et de joie avec toutes ces rencontres que l'on fait qui sont, j'ai plein, en vous parlant, j'ai plein d'histoires, plein de visages.
Plein de visages. Alors justement, partagez-nous peut-être cette rencontre avec une dame qui vous confie que c'est terminé, elle ne peut plus déjeuner avec sa fille.
Oui, ça a été une histoire très, très douloureuse parce que quand je suis rentrée dans sa chambre, l'avantage que j'avais eu, c'est que l'équipe m'avait dit, en rentrant dans sa chambre, attention, ce matin, on l'a prévenu que le verdict, et malheureusement, pour elle, il n'y a plus rien.
C'est-à-dire qu'on ne peut plus vous soigner, madame, vous allez mourir.
Oui, il n'y a plus de traitement, c'est fini, si ce n'est, bien sûr, les soins de confort maintenant. Donc j'avais ça dans ma tête, heureusement. Mais par contre, quand je suis rentrée, cette dame, c'était quelqu'un de très joyeux, très gai, etc., qui adorait la vie, qui adorait manger, moi aussi. Donc ça allait bien, on était vraiment sur un terrain parfait toutes les deux. J'arrive, on commence à partir sur ce chemin-là,
ce registre,
et entre-temps arrive le plateau, et je lui dis en riant, qu'est-ce que Bocuse vous a préparé aujourd'hui? Et on était dans une émotion de joie et de rire, et en l'instant T, on est parti vraiment dans autre chose. Et d'un seul coup, avec violence, elle me dit, eh ben maintenant ça c'est terminé. Et qu'est-ce qui est terminé? Eh ben ça, je peux plus partager maintenant, c'est fini. Et du coup, ben, moment de silence, parce que c'est quand même pas évident. Et comment s'y prendre? Même au bout de 20 ans, on reste. L'accompagnement, même au bout de 20 ans, c'est toujours une première fois. C'est ça qu'il faut se garder dans sa tête. Et du coup, je lui dis, terminé, peut-être pas. Alors elle me dit, ben, si, parce que moi, c'est terminé. Et je lui dis, ben, oui, je sais. Mais peut-être que tout n'est pas terminé, parce qu'on peut peut-être voir les choses autrement. Ce temps qui vous reste, on ne le sait pas, personne ne sait combien de temps il reste. Personne ne peut le dire. Et que peut-être c'est aussi un cadeau qui vous reste pour vous et votre fille, pouvoir partager tout ce moment pour peut-être approvisionner votre fille dans ce départ. Bien sûr, vous ne serez plus là, mais vous serez toujours là dans son cœur, ça c'est important. Et petit à petit, l'émotion est quand même arrivée, donc je l'ai prise, on s'est cajolé l'une et l'autre, et je suis partie. Bien sûr, le problème n'était pas réglé, mais elle était devenue plus sereine.
Oui, il y a un autre exemple avec une dame aussi qui était désespérée, désemparée que son mari meure. Et pareil, vous la sentiez toute tendue et elle a osé pleurer devant vous. C'était un moment de libération pour elle.
C'était même plus fort que ça, parce que vu le contexte de l'histoire, parce que c'était une histoire très compliquée. Et cette dame venait du Sénégal, donc interdiction de pleurer, etc. Et je lui ai dit qu'il fallait absolument qu'elle pleure. Et là, pareil, c'est un peu mon truc à moi. Je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit, mais on va pleurer ensemble. Et petit à petit, les pleurs sont arrivés. Et pour moi, quand on parle de joie, ça reste quelque chose de très émouvant, parce qu'en partant, elle me dit, ben, vous êtes mon ange, je repars avec des ailes. J'avoue, rien que de leur dire aujourd'hui, ça reste quelque chose de très émouvant. Et tous ces visages, je crois que tous les bénévoles qu'on est pourra vous le dire, il y a tous ces mélanges de joie. Il y a des moments où on sort, on n'est quand même pas très, très à l'aise. Mais
Albatros vous donne l'occasion d'être l'ange de quelqu'un, finalement.
Eh ben oui.
Nous évoquons avec vous l'action d'Albatros, cette association qui propose d'accompagner des personnes en fin de vie et leurs familles en soins palliatifs. Albatros, une approche éthique et spirituelle non confessionnelle de l'accompagnement des malades et des familles dans l'esprit palliatif. Alors, Charlotte Ledoux, vous êtes assistante de formation et vous êtes bénévole depuis quelques mois dans cette association. Vous avez la quarantaine épanouie.
Oui.
Pourquoi faire ce choix d'accompagner ces personnes en fin de vie?
Alors, initialement, je voulais faire du bénévolat. Je n'avais pas la moindre idée dans quel domaine d'activité. Et c'est une expérience personnelle très forte qui m'a amenée à accompagner jusqu'à la fin, donc notamment ma grand-mère. Voilà. Et ça a été très, très fort. J'avais plein de projections sur la fin de vie, alors qu'en fait, en le vivant vraiment pleinement, en étant présent jusqu'à la fin, il y a eu des instants magiques, le temps comme suspendu, et j'en ai retiré une richesse incroyable. Et ce qui fait que par la suite, je me suis dit, oui, c'est ça, c'est la fin de vie dans lequel je dois m'engager.
Les instants magiques, c'est des échanges de regards, des paroles?
C'est une communication qui est au-delà des mots, parce que les mots ne sont plus présents, un échange de regards, et quand le regard n'est plus là, c'est... Il y a quelque chose qui se stoppe et il y a quelque chose qui se passe. Je peux pas
le décrire. Une communion entre les êtres.
Voilà.
Communion d'amour, on peut appeler ça comme ça.
Oui, une communion, ouais, quelque chose comme ça.
Qui est dépouillé de tout ce qui n'est pas essentiel, finalement.
Qui est juste, qui est vrai et qui n'est pas temporel, enfin, voilà.
Alors aujourd'hui, donc, vous avez fait le pas de taper à la porte d'Albatros en proposant vos services, hein, on peut le dire, c'est ouvert à tout le monde. Évidemment, il y a une formation qui est proposée, alors,
voilà,
que vous avez suivie.
Donc j'ai suivi ma formation au printemps 2017, pareil, avec toutes mes petites idées sur comment elle allait se dérouler, comment ça allait se passer. Et en fait, ce que j'ai appris dans cette formation, c'est à être et non pas à avoir envie d'aider ou vraiment à être présente, à être dans le silence. Donc c'est plus un savoir-être que j'ai appris. Qu'un savoir-faire, exactement. Et la formation est ponctuée de modules avec du temps, ce qui permet de pouvoir avoir une réflexion sur soi et de se remettre en question justement par rapport au bénévolat que l'on va faire.
Oui, donc c'est une aventure passionnante parce que finalement ça amène à mieux se connaître soi-même pour approcher l'autre de manière plus libre, c'est ça, plus disponible.
Exactement, se dépouiller de toutes nos idées, nos croyances, de nos projections aussi, pour pouvoir vraiment être dans la justesse de la relation.
Oui, alors on apprend à savoir garder une juste distance avec le patient, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'être fusionnel complètement.
En fait, la relation, quand on est présent, elle se fait naturellement. Et c'est vrai que la plus grande difficulté pour moi, ça a été moi-même, en fait, tout simplement par rapport aux idées que je pouvais avoir. Quelles vont être mes réactions, mais même par rapport à la personne, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, qu'est-ce que je vais pouvoir
lui apporter, finalement.
Lui apporter, exactement.
Et puis les personnes peuvent être dégradées physiquement, tout n'est pas rose, hein. C'est évident que c'est pas une démarche qui est facile en soi.
C'est vrai, mais en fait, le plus grand obstacle, c'est soi-même, en fait. C'est les limites qu'on se pose et aux projections qu'on a. Et ce que j'ai vraiment appris aussi bien dans la formation que durant les mois qui se sont passés où je suis bénévole, c'est apprendre à être humble. Parce que, en fait, quand on rentre dans une chambre, c'est une mini-aventure, en fait. Et on rentre, on n'a pas d'attente. Et quand on ressort, on est rempli, on est riche d'un sourire, d'un regard. Donc c'est vraiment une très très belle aventure quand on est vraiment présent et quand on a déposé toutes nos attentes à la porte.
Oui, vous pouvez nous raconter d'ailleurs l'une ou deux expériences que vous avez faites.
Alors ça fait que quelques mois, mais ce qui me nourrit le plus et ce qui est vraiment le plus riche pour moi, c'est que quand on est dans une chambre, voilà, j'essaye de discuter, d'amorcer la conversation et on s'aperçoit que la personne en face de nous n'est pas forcément cohérente. On n'arrive pas à avoir un dialogue, en tout cas logique et raisonné. Et en fait, il suffit d'un regard, mais un vrai regard, de toucher la main, d'être avec elle. Et c'est cet instant magique qui réapparaît. C'est cette communion en fait qui est hors de la logique, hors d'un mécanisme raisonné et d'une conversation dite normale. Il y a vraiment cette communion oui qui se déroule et du coup le temps passe très vite.
Oui, finalement la seule mission qu'on a c'est d'avoir le cœur plein d'amour et de partager cet amour gratuitement avec cette personne qu'on ne connaît pas.
Voilà, et d'être présent et sans les attentes qu'on a, on lui permet il y a cet espace qu'on lui offre pour qu'elle puisse déposer ou pas des choses qu'elle a envie de dire, partager, voilà.
Ouais, donc vous diriez finalement c'est un peu une école de vie ce que propose Albatros.
C'est une école de vie, c'est une école de découverte de soi-même. C'est être vrai personnellement pour être vrai aussi dans la relation.
Le devoir d'accompagnement a valeur de civilisation, de culture et de sociabilité. Il touche au principe même du vivre ensemble, du lien exprimé par des solidarités concrètes. Il engage l'ensemble de la société dans son exigence de non-abandon. On trouve cette phrase pour présenter l'action d'Albatros, cette association née en 1988 qui propose d'accompagner en soins palliatifs des malades et leurs proches. Gérald Pichard, vous en faites partie depuis combien de temps exactement ?
J'ai suivi ma formation initiale en 2010. Donc depuis ce jour-là, j'ai toujours été bénévole et bénévole actif au sein de l'association.
Alors vous avez travaillé une trentaine d'années, c'est ça, dans une banque et 10 ans dans un commerce de tabac.
Oui, c'est exact.
Mais des expériences professionnelles qui ne vous ont pas épanoui.
Non, exactement. Ça n'a pas été une comment. Je trouvais pas comment un sens à cette vie active et malheureusement j'ai rencontré l'alcool hein, qui m'a amené à perdre beaucoup de mes repères à entamer des soins.
Et donc à vous retrouver dans des contextes hospitaliers.
Exactement, me retrouver dans un contexte hospitalier et après pouvoir trouver une formation au sein de ce centre hospitalier en soins palliatifs.
C'est comme ça que vous avez eu l'idée. Quelqu'un vous a proposé, voilà, vous a dit, Gérald...
Si tu veux suivre une expérience de formation, il y a les soins palliatifs. Donc moi, j'étais...
Si tu veux t'engager en bénévolat.
Exactement.
Et qu'est-ce qui vous a motivé au départ?
Ça a été le fait de me sortir, c'est-à-dire quitter cet égocentrisme que j'avais, où je ramenais tout à moi. Et là, j'ai pu voir que dans l'autre, ben, il y avait moi aussi. Et donc, ça s'est pas fait tout de suite, hein. Il m'a fallu un petit moment de maturation. Mais je pensais que, vis-à-vis de ce que j'avais pu recevoir au niveau d'une autre association pour me permettre de sortir de
oui,
l'alcool.
Oui, une chaîne humaine, finalement,
voilà,
d'entraide.
Exactement. Il me semblait que je me devais de rendre cela. Et c'est vrai que quand j'ai contacté Albatros, j'ai trouvé l'endroit, comme on dit, pour poser mes valises. Et là, ça a été sensationnel.
Comme quoi, voilà. Ça aide d'aider l'autre, finalement. Ah,
mais c'est même le moteur, puisque on va... L'autre est le reflet de soi quand même, hein. Il y a des et cette peur que j'avais de ce relationnel, Albatros me donnait les éléments pour pouvoir
grandir en humanité. Exactement. Alors, il faut dire qu'Albatros donc est proposé à des personnes qui ont une certaine maturité, hein, faut le dire. Il y a une formation donc qui est donnée.
Oui, qui est
et
donnée.
Il y a aussi des moments de partage, des expériences qu'on vit avec d'autres bénévoles. On n'est pas livré à soi-même dans cet accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches.
Exactement. Et puis, on a la possibilité d'avoir une bibliothèque très fournie qui va nous permettre d'avoir une
formation un peu continue.
Continue, une vision un peu plus globale de ce qui peut être. Hein. Et aussi le fait de pouvoir bénéficier d'un psychologue, hein, pour nous aider à débriefer tout
sur les cas qu'on peut rencontrer ou ce que ça fait naître en vous, finalement.
Exactement, toutes les peurs ou les interrogations.
Une expérience marquante à nous partager, Gérald?
Alors, l'expérience marquante que j'ai pu avoir, ça a été la possibilité d'accompagner ma belle-sœur. Hein, j'étais déjà au sein d'Albatros avec mon épouse qui, elle, était un petit peu en retrait puisque elle était vraiment dans l'émotion. Et là, on a pu voir, en soins palliatifs, tout ce qui, le confort qui pouvait lui être amené et l'écoute qu'on nous apportait.
Et vous êtes senti d'attaque pour accompagner cette personne de votre famille, hein, c'est souvent le plus difficile.
Exactement, ou comment l'émotion était présente, mais la disponibilité. Être disponible à l'autre, lui laisser l'espace, comme l'a dit Charlotte. Voilà.
Et vous avez vécu un moment fort en couple, hein, j'imagine.
Oui, puisque cette personne, ma femme, c'était fusionnel, puisqu'elle était handicapée, hein. Mais ça nous a permis aussi de nous rapprocher, puisque il y avait eu beaucoup de distance qui s'était mis entre nous avec les problèmes que j'ai pu évoquer avant.
Donc c'était un moment fort pour votre couple, finalement.
Ça a été un moment de se retrouver. Elle nous a permis ça.
Votre belle-sœur, finalement, alors qu'elle était en fin de vie.
Et elle était en fin de vie, mais elle était aussi, comme a pu le dire les amis, dans la sérénité. Et ça a été merveilleux, hein.
Alors que c'était une fin de vie.
Alors que c'était une fin de vie.
Donc un passage dans la sérénité, c'est ça.
Voilà, avec la perspective de, sans savoir, on était reposé, on était dans la détente.
Une mort paisible et accompagnée. « L'esprit palliatif qui nourrit l'association Albatros reconnaît que la personne est unique et requiert une prise en charge adaptée. Cet esprit palliatif reconnaît aussi la mort comme une réalité inéluctable et un processus naturel. On en parle avec vous, Gérald, Marie-Annick, Yves et Charlotte. Alors, quels seraient selon vous les défis importants à relever pour cette association Albatros qui fête ses 30 ans cette année? Yves.
Alors, un des défis, c'est de s'adapter à l'évolution, en fait, de cette démarche palliative. C'est-à-dire qu'au départ, la démarche palliative, elle était centrée essentiellement sur les derniers moments de la vie. Mais cette approche globale de la personne, en fait, elle tend de plus en plus à s'intéresser bien en amont de la fin de vie. Donc, c'est s'occuper de personnes qui sont plus complètement en fin de vie. C'est-à-dire que l'idéal, c'est à partir du moment où on annonce la maladie à quelqu'un, c'est que cet accompagnement commence à partir de ce moment-là. Alors, ça peut durer un certain temps.
L'importance de se préparer, c'est ça ?
Et oui, c'est l'importance de se préparer. Et plus c'est pris en amont, et plus la personne vivra plus facilement, elle et sa famille,
cette maladie grave
et jusqu'à la fin. Et ça prépare en même temps beaucoup plus facilement le deuil de la famille. Et donc, il faut que nos bénévoles, on puisse en avoir, continuer à en avoir plus que ce qu'on en a actuellement. Malheureusement, il y a une baisse du bénévolat.
Oui, général, hein, dans toutes les associations.
Dans toutes les associations. C'est pas que...
Donc, vous proposez à tous ceux qui le veulent de vous rejoindre.
Tout à fait. De façon à pouvoir accompagner dans tous les lieux qu'on a cités, c'est-à-dire bien sûr les unités de soins palliatifs comme au départ, mais les EHPAD, il y a beaucoup de solitude, de fragilité, de souffrance dans les EHPAD, et il y a un grand besoin d'accompagnement. Et puis, à domicile, parce que le plan triennal de développement des soins palliatifs insiste beaucoup sur le développement à domicile.
Oui, Marie-Annick, défi à relever pour l'association Albatros, donc qui accompagne en soins palliatifs des personnes et leurs proches.
Le défi, c'est de donner cette envie. Enfin, beaucoup de gens, quand on leur dit, quand ils nous demandent ce qu'on fait, qu'on dit qu'on est bénévole, et notamment en accompagnement de soins palliatifs, on est pris pour des fous, totalement. Alors que ce n'est pas morbide.
Au contraire, quand on voit vos visages, quand vous racontez toutes ces histoires de rencontres, on le voit. Hein.
Alors, on ne peut pas leurrer les gens, effectivement, on pleure, mais on rit aussi beaucoup. Parce qu'il y a des histoires de vie qu'on partage avec beaucoup de personnes qui sont parfois hilarantes. Bien sûr, on pleure, ça c'est sûr, mais c'est donner cette envie aux gens qui rentrent, et comme moi je suis responsable de la formation, c'est pareil, c'est tout ce cheminement qu'on fait avec eux quand on les voit, et c'est ça extraordinaire, souvent je me dis, mais je suis complètement folle, quand le réveil sonne à 5h30 le matin pour être là à 8h30 pour accueillir les stagiaires, j'ai...
Vous faites toujours un petit effort.
C'est un effort, mais au cours de la journée, toute cette fatigue s'envole. Et quand je repars le soir, mais je suis rechargée d'une force incroyable, parce qu'on voit cette... Il y a quelque chose, on ne peut pas l'expliquer, il faut vraiment le vivre, de voir cette joie qui se fait, cette métamorphose des gens. Parce qu'il y a vraiment une prise de conscience de ce qu'est l'essentiel de la vie. Et souvent, on passe à côté, on ne prend jamais le temps. Et c'est une parole qui me revient de René Claude Beau qui disait « Enfin, on prend le temps de se poser ». Et de réfléchir, parce qu'en définitive, la vie, elle passe très vite.
Et de communier aussi ensemble, hein, c'est ça, l'essentiel.
Et d'écouter des histoires toutes simples de vie des gens et des autres, enfin des uns et des autres. Pour moi, c'est un effet vraiment, l'accompagnement est un effet magique, parce que c'est à un temps où on se pose. Si on est vraiment en communion avec la personne, on se retrouve suspendu à un temps qui peut être très très court.
Ce qu'on appelle des temps d'éternité, oui. Quand on a la chance de les expérimenter. Gérald, un défi à relever pour l'association Albatros?
Alors, ça va être la transmission du message. Faire connaître aux gens, puisque dans l'accompagnement, on parle des malades, mais il y a aussi l'accompagnement des familles, hein, où là, on va pouvoir être présent pour eux, leur laisser de l'espace et d'être dans l'essentiel, dans la vérité.
Charlotte ?
Maintenant, c'est vrai que les jeunes font du bénévolat, ponctuellement, certaines missions, etc. Mais c'est vrai que l'accompagnement des personnes en fin de vie demande un vrai engagement, mais donne aussi un vrai sens. Et on parlait de transmission, mais c'est ça que il faudrait transmettre aux gens de nos générations, que c'est pas, on est dans une société de consommation, et prenons le temps de nous poser, d'être vrais dans nos relations pour toucher du bout l'essentiel et cette part de vérité, en fait.
Bien, grand merci d'être venu témoigner de ce que vous vivez dans l'association Albatros, cette association qui accompagne des personnes en fin de vie, en soins palliatifs et leurs familles. Tous les renseignements, on peut les trouver sur Internet, hein, en tapant Albatros Lyon pour vous contacter et savoir un peu les possibilités.
Absolument, on a un site Internet sur lequel il y a toutes les informations. Donc albatros69.org. Et on arrive sur le site de l'association.
Un grand merci d'être venu témoigner que, il y a de la vie jusqu'au bout, même quand on approche de ce passage de la mort.
Tout à fait. Voilà.